todos, vous êtes bien sur la radio Esprit Occitanie, la web radio de votre région préférée. Aujourd'hui, émission un peu spéciale car nous allons continuer de nous intéresser à la SALC, autrement dit la Semaine d'Amérique Latine et des Caraïbes dans sa toute nouvelle version, celle de 2019. On rappelle évidemment l'ampleur de l'événement, plus de 70 manifestations à Toulouse et à travers toute l'Occitanie. Si ce continent nous fait penser à voyages et destinations de rêve, que connaissons-nous réellement de l'Amérique latine ? Et plus précisément, que connaissons-nous de son art ? Si plusieurs musiques font actuellement le cliché de la culture latino-américaine, celle-ci demeure encore assez inconnue du public. Peintre, écrivain, cinéaste, il y a pourtant plein de ressources en terre latine. Mais laissons plutôt la parole à certains protagonistes de la SALC qui parleront mieux du sujet que moi. Et nous allons commencer déjà par laisser la parole à Felipe et Daniel, responsables du Gallabo Collectivo, qui ont réalisé une fresque le 24 mai sur le donjon du Capitole. Cette œuvre relate l'histoire mythologique latino-américaine et occidentale. On commence par écouter Felipe par entretien téléphonique et je m'excuse par avance de la qualité audio.
Je suis Felipe Vargas, je suis né en Colombie. Depuis 2006, j'habite à Toulouse. Je me suis formé en Colombie comme artiste plasticien et graphiste. Et en 2006, je suis venu en France, ponctuellement à Toulouse, pour faire un master en cinéma. Et par la suite, je fais plusieurs formations universitaires comme ingénieur audiovisuel, comme chercheur créateur. Actuellement, je fais un doctorat en cinéma autour de la rencontre audiovisuelle entre l'Amérique latine et Occitania.
Qu'est-ce que vous êtes venu présenter pendant la semaine de l'Amérique latine ?
Alors, pendant la semaine de l'Amérique latine, j'ai présenté une pièce artistique, une fresque murale qui s'intitule L'origine de l'eau. Et l'origine de l'eau fait partie d'une œuvre beaucoup plus complète. C'est le premier chapitre de Occitrans. Occitrans est un voyage artistique et, qui parcourt la mythologie amazonienne en faisant des liens avec la mythologie occitanienne. Donc, ce que j'ai présenté au Capitole, au donjon du Capitole, c'était une projection sur la façade et qui illustre le premier chapitre qui s'intitule « L'origine de l'eau ». Ça s'est passé le 24 mai. Et voilà, c'est une initiative sur laquelle je travaille depuis le mois d'octobre et qui est née dans les laboratoires artistiques qui j'anime et qui est une collaboration entre l'association Guayao Collectivo et Convergence Occitania.
Vous m'avez dit que vous allez refaire ce spectacle, si j'ai bien compris ?
Oui. Et le 24 mai, on a fait une première et on a pu essayer à niveau technique toute l'installation. On a pu voir comment ça fonctionne aussi à niveau public. Et ces jours-là, il y a eu il a plu énormément. Donc, je pense que le public a été dissuadé d'y être. Et du coup, on a dû faire l'installation dans l'eau. Et c'était un peu difficile. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire une deuxième projection. Et il faut dire que l'origine de l'eau, c'est une pièce qui a été conçue pour l'architecture du donjon du Capitole. Et c'est une pièce d'art qui n'a pas de sens ailleurs. Et du coup, c'est le seul lieu où on peut vraiment l'apprécier parce qu'il a été créé à partir de l'architecture du lieu.
Vous êtes fier de présenter aux Toulousains une partie de l'art de l'Amérique latine ?
Bien sûr. Moi, je suis content d'être invité à cet événement. Et d'avoir la chance de pouvoir projeter dans un bâtiment qui est cher pour la culture locale. Et puis moi j'espère que la projection de d'octobre, la deuxième projection de l'Origine de l'eau, aura lieu le 25 octobre de cette année. Donc j'espère que sur là, ben, on aura les boutons, on aura des boutons et ça permettra de faire venir les gens. Et, de toute façon, on va faire de la communication à la rentrée pour commencer à informer les gens du spectacle. Et puis, ouais, je suis fier parce que, bon, déjà, c'est une œuvre qui me plaît beaucoup. Et ensuite, je pense que cet événement de la Semaine d'Amérique latine était vraiment nécessaire parce que nous sommes plusieurs professionnels à travailler et vivre en Occitanie. Et je ne parle pas que des artistes. Il y a aussi beaucoup de gens de la technologie, de la science, et des gens de la santé et des sciences humaines en général. Donc, je pense que c'est un événement de la Semaine d'Amérique latine qui permet de rassembler déjà toutes les nationalités latino-américaines et de faire des liens avec la culture française et surtout de tout nous retrouver. Et continentale, transcontinentale.
Merci Felipe.
Avec grand plaisir.
Pouvez-vous nous rappeler la date donc de l'événement?
Alors le rendez-vous pour l'Origine de l'eau, c'est le 24 octobre.
24 octobre.
25 octobre. Oh là là, j'ai même oublié.
25 octobre.
Octobre 2019 et ça aura lieu sur les donjons du Capitole et juste à la sortie du métro Capitole. Voilà, 25 octobre 2019.
On vous tiendra au courant. Merci Felipe.
Merci à vous, au revoir.
On continue donc avec Daniel qui cette fois-ci est interviewé aussi par entretien téléphonique avec Léonore, une des membres émanantes du projet de la SALC.
S'il vous plaît.
Oui, bonjour. Je m'appelle Daniel Virgüez de l'association culturelle Guayabo Colectivo. Voilà. C'est l'association créée à Toulouse depuis l'année 2013. Et on crée des ponts culturels et artistiques entre l'Amérique latine et l'Europe, notamment Toulouse.
Et quel est votre parcours?
Moi, je suis réalisateur audiovisuel à la base de l'Université nationale de Colombie et j'ai fait mon master d'infographie à l'ENSAF, à l'École nationale supérieure d'audiovisuel à Toulouse. Et maintenant, je suis en train de faire une thèse sur la coproduction internationale des stop motion au laboratoire de recherche à la CEPIA, à l'Université Jean Jaurès.
Et pour vous, en tant que réalisateur, mais également vous représentez l'association Guayabo Colectivo, qu'est-ce que ça représente le fait d'être dans la SALC et pouvoir montrer votre talent, votre travail?
Faire partie de SALC, de la Semaine d'Amérique latine et des Caraïbes, en tant qu'association culturelle, ça nous permet de mettre en valeur le continent sud-américain à travers de l'art et montrer une autre image, que ce ne soit pas les informations qui arrivent à partir des infos. Donc notre but, c'est vraiment de montrer à notre imaginaire, à notre sceptique.
D'accord. Et on sait que vous allez présenter encore l'activité de mapping. Est-ce que vous voulez inviter les gens pour participer? Vous pouvez aussi dire la date et l'heure.
Pardon? J'ai pas entendu la question.
Alors, je vous disais que vous allez présenter encore l'activité de mapping. Je vous demande d'inviter les gens pour participer et si vous pouvez nous dire l'heure et le jour.
Ah oui. Et oui, donc la projection de mapping on va la refaire. Et c'est surtout une explication, une invitation à rentrer dans l'univers de la création de l'eau, de la naissance de l'eau. Et ça va être le 25 octobre, à partir de 22h, et dans la sphère Charles de Gaulle, donc c'est derrière le Capitole, notamment dans le bâtiment de Donjon de Capitole.
D'accord. On vous remercie, Daniel, pour votre participation, mais également pour cette interview.
Alors, merci à vous et bonne journée.
Bonne journée, merci. Au revoir.
Parlons maintenant musique, et non, ce n'est pas encore l'heure de la pause musicale. Je vais tout simplement vous présenter Didi Daniel, la marraine de cette édition de la Salk. Cette grande artiste originaire d'Haïti possède une des voix les plus fortes de la planète. Lilou Saint-Viteux est partie à sa rencontre.
Bonjour.
Bonjour, je me présente Didi Daniel. J'ai l'immense honneur et puis la joie et puis même je peux dire la fierté d'être marraine de l'événement de la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Voilà, tout simplement par une rencontre qui s'est faite de façon très simple, naturelle, monsieur Jacques Lavergne, et qui m'a parlé de ce beau projet. Et par la suite, on a rencontré Jean-Marc Laforêt. Et puis ça a été tout naturellement parce que je suis originaire de Haïti et que j'aime la mixité, l'ouverture, la culture, mais je suis sensible aussi à la politique, à l'environnement et au rôle que j'ai aussi en tant qu'actrice culturelle de la région Occitanie. Donc c'est tout naturellement que j'ai dit oui, parce que c'est un engagement et puis et que c'est beau de faire bouger aussi les choses par la musique, de représenter quand même mon pays qui est Haïti. Et puis d'avoir aussi cette conscience de tout ce qui peut être grand et dans en Amérique latine, d'être un petit peu curieux de d'aller chercher, de développer, on va dire, toutes les richesses d'un continent peu connu peut-être en France et encore moins peut-être en région Occitanie. Donc de représenter cette culture.
C'est quoi?
Alors le gospel, comme je l'expliquais, je suis originaire de Haïti, j'ai été abandonnée. Et c'est vrai que dès petite, c'est très naturellement que j'avais cette expression très forte de révolte et d'espérance. Et en fait, tout naturellement, c'est dans le chant gospel, dans la soul music, dans le jazz, que j'ai retrouvé, on va dire, cet écho. En fait, à ma révolte, à ma demande. Et donc, dans le gospel, ça me permettait tout simplement de réguler, on va dire, mon état émotionnel, très, très fort étant petit, de par mon histoire. Et puis, le gospel aussi, c'est tout un mouvement du peuple noir qui ont subi l'oppression. Et que et le chant, le gospel, a été un chant de ralliement et aussi de révolte. Donc il y a une teinte de spiritualité, ça oui, mais il y a aussi ce chant, c'est un chant de ralliement qui fédère et qui génère en fait une force collective. Et c'est ça que moi je retrouve avant tout dans le gospel et que j'aime aussi à transmettre même dans mon école de gospel à Toulouse.
Ça fait partie du message que vous souhaitez partager aujourd'hui ?
En fait, il faut être très généreux aujourd'hui. Il faut être très généreux. Ça peut être effrayant d'essayer d'être gentil, d'essayer d'être simple. C'est pas évident parce qu'on se cache beaucoup derrière plein de facettes. Moi, je trouve que c'est important d'être généreux, d'être plein d'amour. On n'est jamais assez contagieux de sourire, quoi. Enfin, le sourire n'est jamais... ne peut pas faire de mal, en fait. Le sourire, comme je chantais tout à l'heure lors de l'inauguration, enfin du début de la semaine, c'est cette petite lumière. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Voilà, cette petite lumière, c'est bien de la faire briller. Et ouais, il faut en être fier un petit peu, parce que ce monde, on en a besoin. Enfin, moi, personnellement, j'en ai besoin. J'aime l'offrir et j'aime en recevoir beaucoup, beaucoup. Voilà.
Pour vous, ça doit représenter quoi cet événement ? Il doit devenir comment par la suite ?
Ils doivent devenir comment ? Je pense que c'est déjà toutes ces. Je pense que c'est une aventure que je vais découvrir. parce que c'est la première fois aussi, donc il faut être honnête aussi par rapport au titre, même si je suis très fière. C'est la région Occitanie, voilà, donc je suis très honorée. Mais pour être très honnête, c'est tout simplement de rester en lien avec tous les organisateurs, que ce soit Jean-Marc Laforêt et tous les responsables au niveau du préfet, de voir mon rôle. Je pense que c'est avec eux aussi que je vais le construire. Voilà, je vais construire aussi ce rôle. Mais je me sens disponible par ma voix, parce que c'est vrai que c'est l'outil que j'ai aujourd'hui, par la musique, soutenir ou développer avec eux ce rôle de marraine et puis accompagner cette belle visibilité de l'Amérique latine et des Caraïbes, parce que, auquel j'appartiens aussi.
Si on devait retenir un mot, ça serait le partage.
Ah oui. Oui, tout se fait par le partage, tout se fait par le sourire. Ça fait du bien et ouais, faut être très généreux. Voilà, moi, il faut être très généreux de ça, ça fait du bien.
C'était donc Didi Daniel, une des figures importantes de la Salk, car elle est la marraine et aussi une chanteuse de gospel hors pair. Je vous propose donc une première pause musicale avec Alondra de la Parra, donc cette chef d'orchestre mexicaine qui présente donc Danzón Número 2 de Arturo Márquez, et c'est au Verbier Festival. On écoute ça tout de suite. C'était donc Alondra de la Parra qui reprenait donc du Arturo Márquez, Danzón Número 2. Et évidemment, il faut absolument aller écouter cette chef d'orchestre mexicaine qui est absolument talentueuse. Parlons maintenant de Rosendo Lee. C'est un artiste péruvien dont Shana, une de nos collègues à la radio, est partie interviewer, ou plutôt à téléphoner. C'est une interview que vous proposons maintenant.
Je suis né au Pérou, fils des Chinois et des Péruviennes, je fais des études de beaux-arts au Pérou, plus tard en Chine, et ultérieurement je suis arrivé à Montauban, et je partage ma vie d'artiste peintre et dessinateur graphiste avec l'enseignement. Donc j'essaye de vous le faire très court parce que votre collègue m'a demandé, m'avait dit que c'était un entretien de 10 minutes, donc j'essaye d'être le plus bref possible.
Oui, s'il vous plaît. Et en étant le plus bref possible, pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une formation des beaux-arts. Et ce que j'ai, depuis le Pérou, je partageais avec l'activité des dessinateurs graphistes, autant pour la communication, la publicité et pour les bandes dessinées. Mais essentiellement, mon travail, c'était la peinture, bien entendu.
D'accord. Vous participez à la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
La première proposition qui m'avait été faite consistait à évoquer une artiste péruvienne qui s'appelle Dilsa Suchilla, à laquelle j'avais connu au Pérou, mais nos travaux diffèrent beaucoup, nos styles diffèrent beaucoup. Donc on m'avait sollicité de participer pour une espèce de suivi de son œuvre, etc. Mais je avais refusé de faire une exposition à propos de cet artiste, puisque je ne me sentais pas autorisé, malgré que je l'avais connu, à faire un hommage ou à me parler, parce que nos styles sont très différents. Mm-hmm. Très différents, pardon. Mais plus tard, comme la personne qui m'avait proposé d'exposer m'a parlé d'une présence latino-américaine à Toulouse, il me semblait que c'était plus adapté par rapport à mon travail. Et dans ce sens-là, j'ai proposé des portraits de l'Amérique latine, des personnages de l'Amérique latine, et ce que j'avais appelé à l'époque, dans une exposition précédente, comme des portraits avec entrée d'union, portrait et caché. Je vais essayer de vous l'expliquer. Et ces calembours de portrait, c'était pour faire référence à la ligne qui, on va dire, qui m'obsède et qui fait partie de mon expression artistique, et influencée par la ligne de Nazca. C'est une ancienne culture péruvienne. Mmh. Et donc, c'est pour cela que je l'avais appelé trait. Et caché, c'était dans le sens de montrer quelque chose qui était un peu occulté dans le dos des personnages des nus que j'avais représentés au même état. Il y avait l'identité dévoilée des personnes, des peintres, des écrivains, des politiques qui avaient leur visage bien connu, comme Salvador Allende, comme Pablo Neruda, comme Tupac Amaru, des poètes et des écrivains latino-américains des années 70. Et du côté des nus, c'était en parallèle avec les dos, les personnes qui ne connaissaient pas bien son dos, leur dos. Et pour ça, je voulais que l'identité que nous avons, que nous portons avec notre corps, puisse être quelque part pris en compte pour tout ce que nous dévoilons pas. Donc il y avait d'un côté une affirmation identitaire concernée par la culture, concernée par la géographie et son action sociale, et de l'autre côté, ce côté humain, ce côté corporel, sensitif, sensuel que je voulais exprimer. Mmh. Donc ça, c'était la démarche pour cette exposition de la SALC à la fin de mai. Et pour ajouter une chose un peu plus universelle, j'avais pris l'homme de Vitruve de Leonardo da Vinci. Et donc c'est un homme qui est représenté selon les proportions de Marc Vitruve, et un mathématicien dont Leonardo s'est inspiré, et j'ai pris à la place de cet homme plutôt une femme. Mm-hmm. Un point qui me semblait assez important à souligner dans cette exposition, ça a été la vidéo que j'avais fait inspirée de, bien sûr, de la peinture qui était présente, l'original, des deux portraits d'Allende et de Neruda pour rappeler ô combien l'histoire est importante pour connaître bien non seulement ses racines, mais aussi son avenir, son présent et ses objectifs qu'on a dans la vie. Et avec la peinture, comme avec la vidéo, je voulais rappeler que méconnaître ce qui était passé dans l'Amérique latine ou comme dans d'autres parties du monde par rapport à l'assassinat politique, c'est faire preuve d'ignorance ou de négligence vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde. Est-ce que je suis assez court, bref, ou vous voulez encore un peu plus de détails?
Non, parfait, je voulais juste parler de la CEV.
De la quoi, pardon?
De la CEV, la Convention de la Vérité. Parce que vous venez d'en parler, et je voulais savoir quel rôle vous avez dedans.
Quel rôle pouvait avoir la Commission de la Vérité? Vous parlez du Pérou ou des Chili?
Des deux. Du Pérou, vu que vous êtes péruvien, vous êtes né au Pérou.
Oui. La Commission de la Vérité, il y a eu plusieurs commissions. Je me souviens d'une qui avait été présidée par Mario Vargas Llosa, qui est sur mon boulot de entendu parler, un prix Nobel 2010, et qui déresponsabilisait quelque part les responsables politiques et militaires en disant que les vicissitudes du Pérou avaient une grande relation avec l'histoire, avec le passé, et qu'il, quelque part, cette commission, je parle de la commission Vargas Llosa, c'est laver les mains vis-à-vis de la signalisation de responsable. Mais il y a eu d'autres commissions qui ont effectivement fait un boulot beaucoup plus remarquable.
Et oui, merci Rosane Dolly pour votre interview et votre projet bien plus qu'intéressant. Je vous propose donc, après cette interview, de faire de suite une nouvelle pause musicale avec cette fois-ci Celia Cruz, une Cubaine, qui nous propose son morceau Guantanamera, j'espère l'avoir bien prononcé. Donc Celia Cruz, c'est cubain, c'est Guantanamera.
Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde quieres la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde quieres la palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Blanca en junio como en enero, cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Thank you. verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo.
Véritable dose de fraîcheur signée Cuba. Je rappelle évidemment le titre, c'est Guantanamera par Celia Cruz. Parlons maintenant de Carolina qui, en plus d'avoir activement participé à la SALC, est aussi membre du CEV. Donc le CEV, qu'est-ce que c'est ? C'est la Commission colombienne pour l'éclaircissement de la vérité, la coexistence et la non-répétition, CEV en plus simple, en Colombie, évidemment, et qui avait pour thème donc déconstruire l'oubli, construire la mémoire, donc une sorte de remise en vérité des événements passés. On écoute tout de suite Carolina, interviewée par Shana Ujani.
Vous participez à la SALC, la Semaine d'Amérique latine et des Caraïbes, et à la CEV. Est-ce que je peux savoir ce que ça représente pour vous ? Est-ce que vous pouvez nous en parler des événements ? Et dans la région, pourquoi vous êtes intéressé et vous faites partie de ces événements ?
De l'événement, justement, parce que cette semaine, il y avait l'installation de la commission de la vérité et pour éclairer la vérité du processus dans le cadre des accords européens en Colombie. Et je suis une artiste engagée, et je suis en plus de danse, je suis politologue aussi. Et toujours, c'est les thèmes de recherche, de recherches que j'ai fait. C'est tout le temps lié à la politique, lié par exemple au fait du féminisme, de l'Amérique latine, des femmes immigrées, mais aussi du thème de la disparition forcée en Colombie. C'est pour ça, dans le cadre-là de cet événement, en tant qu'artiste, je voulais renforcer toute la programmation pour travailler ça fait la partie de cette civilisation artistique, de cette installation de cette commission de la vérité en France et pour essayer de sensibiliser les exiliés, les gens qui peuvent aider à construire et à reconstruire cette mémoire et cette vérité en Colombie. Et c'était pour ça qu'il était intéressé. C'est un compromis aussi politique avec mon pays, aussi en tant que je ne suis pas exilée, mais je suis femme immigrée en France et toujours tout le temps engagée avec la vérité, la situation politique de mon pays.
D'accord, merci, c'était très intéressant. Je vous remercie pour ce petit entretien pour la Semaine d'Amérique latine et des Caraïbes.
D'accord. Bon, et ça, c'est tout.
Oui, c'est tout. En fait, c'est juste quelques questions.
Nous voilà déjà au terme de notre émission spéciale SALC, mais aussi spéciale art, présentée aux Toulousains à travers donc, des arts latino-américains, à travers la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, version 2019. Je suis Bastien Lemieux et j'ai été très honoré de vivre cette expérience avec vous et de vous présenter un peu plus cette semaine merveilleuse qu'est la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes qui vous attend déjà en 2020 avec encore plus d'ambition. C'était Bastien Lemieux sur Esprit Occitanie. Ciao! We'll be right back.
Thank you.